Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, c'est toujours un puissant encouragement et un grand réconfort de faire précéder ou d'accompagner l'annonce de la parole de Dieu par un ou plusieurs témoignages des miracles que le Seigneur accomplit pour ceux qui se confient en lui. Et nous avons donc ce soir encore le récit d'une expérience de vie particulièrement poignante. Donc, le titre de ce témoignage, c'est « Atteinte de tuberculose, elle avait perdu tout espoir de guérison ». Voilà le témoignage de cette personne, de cette dame. Tous les symptômes de la tuberculose généralisée étaient manifestes, rongeant mes organes internes et déstabilisant complètement mon appétit. L'état de mes organes digestifs était tel que je refusais presque tous les aliments et je vomissais invariablement le peu que je mangeais. Quelquefois, il ne m'était même pas possible de garder une boisson. De nombreux éminents spécialistes, chirurgiens et docteurs m'ont prescrit des médicaments qui sont restés sans effet. En fait, ils ont de nombreuses fois prétendu de façon certaine que la fin de mes jours approchait et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ainsi, Mme Kathleen Brickhill, de l'État de Victoria en Australie, résume son état de santé en ce mois de février 1922. Cela faisait presque 14 ans que Mme Brickhill souffrait terriblement. Cette femme était une chrétienne authentique. À l'âge de 17 ans, elle s'était tournée profondément et définitivement vers le Christ, abandonnant une vie de péché et de mondanité et désirant désormais consacrer toute sa vie à Dieu. 16 mois après sa conversion, un accident grave la laissa avec d'importantes blessures à l'abdomen, suivies de beaucoup de complications internes. 4 chirurgiens se penchèrent sur son cas et décidèrent, après consultation, de tenter une intervention chirurgicale qui n'eut toutefois pas l'effet désiré. La maladie grave de la tuberculose s'ajoutant aux suites de l'accident, elle avait fini par se décourager et avait presque perdu tout espoir de guérison. Ses reins étaient perforés, elle avait de très fréquentes hémorragies, son bras gauche ainsi que sa cuisse et sa hanche gauche présentaient des plaies purulentes et répugnantes. Les médicaments ne faisaient plus aucun effet, sinon apaiser quelque peu ses douleurs en la plongeant dans un état semi-comateux. Elle ne pesait même pas 20 kilos et les médecins ne lui donnaient qu'une espérance de vie de 6 semaines. Elle finit par regarder l'approche de la mort avec un certain sentiment de résignation, presque comme une libération de toute souffrance. Mais raconte-t-elle dans son témoignage, « Alors que j'étais mourante, au début du mois de février 1922, un rayon de lumière a pénétré mon âme lorsque le bruit me parvint qu'un évangéliste venu d'Angleterre tenait des réunions dans notre ville, à Melbourne, et qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. » C'était l'évangéliste bien connu Smith Wigglesworth, un authentique homme de Dieu qui, durant son ministère, a vu de nombreuses guérisons en réponse à la prière. L'annonce de la venue de ce serviteur de Dieu eut immédiatement un effet positif sur la foi de cette femme. « Lorsque j'ai appris la nouvelle, dit-elle, ma foi en Dieu a commencé à grandir et j'ai exprimé le souhait qu'il vienne prier pour moi à la maison. » Mais j'ai appris que l'évangéliste était tellement sollicité pendant sa venue qu'il lui serait impossible de venir chez nous. Cette nouvelle a fourni une occasion à l'ennemi de me décourager. Mais loué soit le Seigneur, ayant gagné une foi plus grande et désespérément impatient de remporter la victoire, j'ai demandé à mes parents de me conduire à la salle où l'évangile était annoncé. Après de nombreuses supplications, ceux-ci ont fini par accepter, bien qu'à contre-cœur. Et le 16 février 1922, Mme Brickhill a pu assister à une des réunions du dimanche. Son état était tellement désespéré qu'elle vit cette occasion comme le tout dernier ressort. Mais elle se rendit à la réunion remplie d'enthousiasme, rayonnante. Pendant l'annonce de la parole de Dieu, elle sentit sa foi grandir. Elle était consciente de la présence de Dieu. À la fin de la réunion, le pasteur Wigglesworth vint vers elle. Elle lui raconta sa souffrance. En loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus et en faisant monter vers Dieu une prière de foi, il lui adressa aussi quelques mots d'encouragement sincères. « Sœur, dit-il, je crois que le Seigneur va te guérir. Ne crains pas, crois seulement. » Aussitôt, elle sentit la puissance de Dieu traverser tout son être et en un instant, elle fut totalement guérie. Elle raconte elle-même « Toute la douleur a disparu, toute ma faiblesse. Mes chaînes sont tombées, mon âme a été libérée. Je me suis levé et je me suis mis à marcher, louant Dieu, consciente qu'une œuvre puissante venait de se réaliser en moi. Son premier désir fut alors de se précipiter à la maison pour raconter à tous ce que le Seigneur avait fait pour elle. Tout témoignait de l'intervention miraculeuse. Elle marchait toute seule, elle n'avait plus de douleur, et arrivée à la maison, elle ressentait pour la première fois depuis de longues années l'envie de manger. En arrivant à la maison, poursuivit-elle, j'avais un appétit féroce, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. À la maison, on s'est inquiété en me regardant apaiser ma faim. On craignait que les conséquences naturelles de l'absorption d'aliments ne reviennent. Mais à la surprise générale, j'ai pu pleinement apprécier un copieux repas. Après le dîner, on m'a aidé à retirer les bandages des parties infectées de mon corps. Nous avons alors découvert que le Seigneur avait renouvelé les os abîmés et la chair ulcérée par des os et de la chair neufs et en parfaite santé, les recouvrant d'une peau semblable à celle d'un petit enfant. Tous mes sens ont été ravivés. Et cette nuit-là, j'ai pu profiter d'un merveilleux repos, le premier sommeil naturel depuis que j'étais tombé malade. 5 ans plus tard, cette dame australienne put confirmer sa guérison miraculeuse par ce témoignage écrit, publié au milieu d'une série d'autres semblables, et souligner combien cette rencontre avec Dieu avait transformé toute son existence. Elle put par la suite se marier, et les deux époux consacrèrent leur temps et leur force à servir le Seigneur, œuvrant surtout dans les quartiers pauvres de la ville de Melbourne. Le plus grand désir de Mme Brickhill étant désormais de témoigner de ce que le Seigneur avait fait pour elle, afin que cette intervention miraculeuse puisse aider d'autres à saisir les promesses de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, comme toujours, il y a là des enseignements et des rappels particulièrement édifiants et salutaires pour nous, dont il est bon que nous relevions quelques-uns. Et tout d'abord, le fait que la santé... La bonne santé n'est pas un dû, comme on pourrait parfois se l'imaginer. Il s'agit d'une grâce, parmi bien d'autres grâces, dont il nous faut tous être continuellement et profondément reconnaissants, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ensuite, qu'il ne sert à rien d'en vouloir à Dieu si les choses ne vont pas comme on voudrait, si les épreuves se prolongent, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est le fait de persévérer dans une attitude de soumission, de confiance et de bonne disposition à l'égard de Dieu qui a permis à cette jeune fille d'être prête lorsque l'occasion de sa guérison s'est présentée et de pouvoir s'en saisir. On pourrait dire que la promesse, ce que Dieu dit à son serviteur le prophète à propos de la prophétie, si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement, eh bien que cette promesse aussi est valable pour cette situation. Et puis oui, il a fallu qu'elle s'en saisisse. À un moment, il a même fallu qu'elle lutte pour convaincre son entourage de l'amener à la réunion pour y bénéficier de la prière de la foi. Combien il est démontré, là encore, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et qu'il faut lutter jusqu'au bout. Si elle n'avait pas lutté jusqu'au bout, aurait-elle été guérie? Dans son état, probablement non. Mais une fois de plus, c'est à la dernière extrémité que le miracle s'est produit et que le nom du Seigneur en a été d'autant plus glorifié. Et puis, quatrième chose aussi importante, c'est que cette jeune fille a fait contribuer toute la suite de sa vie au service de Dieu et à la gloire de Dieu. Et c'est certainement aussi une disposition que le Seigneur voyait en elle, qu'il discernait et qui a fait qu'elle a pu bénéficier avantageusement de ce miracle. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Oui, voilà la grande préoccupation du Seigneur. Trouver des serviteurs et des servantes fidèles dans son œuvre qui s'y consacrent pleinement et jusqu'au bout. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera, nous rappelle l'Écriture. Oui, beaucoup peuvent dire qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, qu'ils veulent le servir. Oh, que de grandes proclamations, que de grands engagements! Mais dans la réalité, on s'aperçoit que peu nombreux sont ceux qui les mettent réellement en pratique et jusqu'au bout. Pourquoi ? N'étaient-ils pas sincères quand ils ont dit qu'ils s'engageaient ? Ont-ils été menteurs ou hypocrites ? Non, pas forcément. Non, la plupart du temps, ils y croyaient. Et ils pouvaient même être enthousiastes et brûlants de zèle sur le coup. mais trop souvent ils étaient superficiels. Ils manquaient de persistance, ils n'avaient pas de racines profondes. Et quand l'épreuve est venue, que ce soit celle du temps, de la souffrance, de la difficulté incompréhensible, quand une tentation ou l'autre est venue, c'est cette superficialité qui s'est révélée et les a fait se retirer ou abandonner. Bien souvent, Dieu discerne cela de loin, et c'est pourquoi il ne peut bénir ou exaucer comme il le voudrait. Ah, il nous faut croire réellement que nous avons un Dieu capable de faire de grandes choses, des choses merveilleuses comme celles qui nous sont décrites là. Nous voulons maintenant, frères et sœurs, ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, où nous aurons une lecture à partir du verset 13. Mais avant cela, nous voulons prier. Merci Seigneur notre Dieu pour tes bontés envers nous. Merci pour ton puissant secours, ton puissant soutien. Merci pour les belles choses que tu as accomplies en effet et que tu accomplis encore parce que tu es toujours le même et que tu ne changes pas. Nous voulons le reconnaître et le proclamer de tout notre cœur. Et merci parce que tu bénis encore l'annonce de ta parole pour qu'elle soit véritablement une puissance et une grande grâce pour chacun d'entre nous. Amen. Dans 2 Samuel 23, au verset 13, nous lisons. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Et je relis dans la deuxième partie du verset 15. « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Quel désir étonnant, remarquable par bien des points que celui de David dans ce passage. Et nous avons là une profonde signification spirituelle. Nous avons là un message prophétique caché, mais dont le sens peut être facilement découvert par celui qui a soif de Dieu et des choses de Dieu. Et il y a là aussi de grandes bénédictions en conséquence. L'eau de la citerne de Bethléem, c'est une image du Seigneur Jésus et de sa parole et de la vie abondante qu'il accorde. Dans Jean chapitre 7, il est écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le Seigneur Jésus dit encore, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » C'est au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Et encore, nous lisons donc ce soupir du psalmiste, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon Dieu. » Il est bon que nous puissions considérer plusieurs des caractères de cette eau qui nous parle du Seigneur Jésus. Déjà, elle se trouve à Bethléem. Bethléem qui veut dire « maison du pain ». Et c'est en effet à Bethléem que le pain de vie est apparu, le Seigneur Jésus. C'est là que sa naissance était prophétisée, puisqu'il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Et cette prophétie s'est accomplie dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est qu'il y a une citerne unique à cet endroit. Il est parlé de la citerne qui se trouvait en ce lieu. Il n'y en avait pas plusieurs, et ainsi du Seigneur Jésus. Il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, une seule source de salut, de joie et de paix éternelle, d'assurance du salut divin. Et c'est pourquoi c'est à Jésus qu'il faut venir aujourd'hui et à lui seul. Et puis il nous est écrit qu'il y a une citerne à la porte de Bethléem. Elle n'était pas au centre de l'agglomération, mais à l'écart. Il fallait aller vers elle au dehors quand on voulait de l'eau en période de sécheresse. Souvenez-vous que de la même manière, le Seigneur Jésus n'a pas été accueilli à Bethléem même, dans une des maisons de Bethléem à sa naissance. Il nous a dit qu'il n'y avait point de place pour lui dans l'hôtellerie. C'est dans une étable, au dehors, que le Seigneur est apparu. Et dans combien de vies et de situations le Seigneur en est là? Il frappe à la porte du cœur aujourd'hui pour entrer dans la vie de ceux qui lui ouvrent et y mettre sa grâce. Et puis c'est une citerne cachée, comme il est naturel pour une citerne de cette époque-là. Maintenant, on promène des citernes sur des camions, mais à ce moment-là, la citerne était sous terre. Elle était complètement invisible. Vous pouviez même y tomber si vous ne preniez pas garde. Cette citerne, bien réelle, était donc pratiquement hors de vue. Elle avait très peu d'apparence. Et comme le Seigneur Jésus a vécu dans l'humilité et l'abaissement volontaire. Il était, il est vrai, il demeure, le plus immense et le plus merveilleux réservoir de bénédictions qu'il puisse y avoir sur la terre. Mais il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais quel fruit et quel résultat pour tous ceux qui sont venus à lui. Et puis cette citerne contenait une eau excellente. Elle devait avoir un goût particulier, un goût auquel David la reconnaissait entre toutes les eaux. Elle devait être fraîche et bonne. Et ceux qui viennent à Jésus reçoivent une eau excellente, l'eau de la vie, celle dont le goût ne peut être imité par personne. C'est une eau qui apporte la guérison mieux que celle de n'importe quelle source thermale ou miraculeuse. Et celui qui boira de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Car l'eau que Jésus lui donnera jaillira pour lui jusque dans la vie éternelle. Et c'était une citerne abondante aussi. Il y avait de l'eau en toute saison à cette citerne-là. Ce n'était pas évident pour toutes les citernes, car il existait des citernes qui n'en contenaient qu'à certains moments de l'année, qui s'épuisaient en période de sécheresse. Il y en avait d'autres qui étaient crevassées et ne retenaient pas l'eau. Mais dans la citerne de Bethléem, David savait qu'il y avait toujours de l'eau, bien qu'on en soit à l'époque de la moisson, comme il est indiqué au verset 13. Et combien il en est ainsi de Jésus. Dans les périodes de sécheresse, on peut toujours venir à lui. Il a des réserves excellentes pour ceux qui marchent dans ses voies avec confiance. Ne nous a-t-il pas dit, concernant ceux qui avaient la foi lors de la marche au désert, qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et que ce rocher était Christ? Et c'est ce que nous pouvons faire et devons faire également. Et puis une septième chose, cette citerne était suffisante pour boire. Il y en avait largement assez pour David et les trois hommes, s'ils le voulaient, pour qu'ils puissent boire de cette eau. Et certainement, on n'aurait pas vu la différence entre avant et après qu'ils aient bu et puisé pour en apporter à David. Il n'était même pas question de se demander si ce serait suffisant. Il était évident qu'il y en aurait plus qu'assez. Et ainsi en est-il de Christ, que ce soit pour l'eau du salut, puisqu'il est dit, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, ou que ce soit pour tout autre besoin, maladie, difficulté, souffrance, angoisse, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Il est et demeure toujours pleinement suffisant. Nous voyons donc bien que cette eau de la citerne de Bethléem est une bonne image du Seigneur Jésus et de quelques-uns de ses excellents attributs et caractères en faveur de ceux qui viennent à lui. Et ceci nous amène à considérer David. Ce sera notre premier chapitre. David, donc, est une image de celui qui a soif des bonnes choses de Dieu. Et là encore, nous trouvons dans notre texte bien des choses frappantes et parlantes pour nous. Le verset 13 nous dit que David est dans la caverne. Cette caverne est son refuge à ce moment-là. Une caverne, c'est souvent l'image de la dernière extrémité. Quand un homme ne sait plus où se réfugier, il va au fond d'une caverne. Nous en avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Lors de la bataille de Gabaon, les rois qui s'enfuyaient devant Josué se sont réfugiés au fond d'une caverne. Le prophète Élie, en dépression, arrivant à la montagne de Dieu à Horeb, après une marche de 40 jours dans le désert, est allé au fond d'une caverne et pensait que c'était fini pour lui et que cela finirait ainsi. Ou Lot et ses filles, lorsqu'ils se sont échappés de Sodome et puis qu'ils ont fait d'autres tentatives, n'ont plus trouvé de refuge final qu'au fond d'une caverne. le démoniaque de Gadara, qui allait se réfugier dans les cavernes, car il était saisi par ces puissances mauvaises qui l'y contraignaient. Et quand un homme se trouve ainsi au bout de ses ressources, à l'extrémité, dans sa propre caverne de désespoir, d'abattement, de profond découragement, c'est justement alors qu'il lui faut se tourner vers le Seigneur qui veut le secourir. Laissez-moi vous donner encore un témoignage récent, celui d'un garçon qui s'appelle Olivier. Il nous a dit qu'Olivier n'en pouvait plus. Il avait pensé réussir sa vie en prenant du bon temps avec ses amis, en mettant au centre de ses intérêts le football, mais maintenant il était désenchanté. Oui, le football était sa passion. Pas le match en lui-même, pas le sport qu'il ne pratiquait pas, mais l'ambiance, le risque, la bagarre. En effet, Olivier était ce qu'on appelle un hooligan. Avec les matchs, la violence, l'alcool et la haine étaient ses compagnons de jeunesse. À 17 ans, il connut une première fois la prison. Mais à peine libéré, il eut de cesse de retrouver sa bande et la violence. Cela en devint maladif. Bientôt, on lui imposa de se faire soigner. Durant ce séjour en clinique, il fit le point sur son existence. Il réalisa qu'il était en train de la gâcher. Mais comment faire ? Comment sortir de ce cycle infernal qui dominait sa vie ? Durant une promenade dans le quartier de son centre de soins, au bord du désespoir, il se mit à penser à Dieu. « Si tu existes vraiment, aide-moi, montre-moi, fais quelque chose pour moi !»« Bien sûr, se dit-il, rien ne se passe, pas de réponse. » C'est alors qu'au détour du chemin, stupéfait, il lut sur la façade d'un bâtiment cette inscription « Centre chrétien ». Dieu l'aurait-il entendu ? Lui répondrait-il déjà ? Avec hésitation et crainte, il entra dans le bâtiment, personne, sur une petite table, quelques dépliants. Il en prit un et se mit à lire. On y parlait de l'amour de Dieu pour tous les hommes et de la puissance de Christ pour pardonner et transformer les vies. Absorbé par sa lecture, il n'entendit pas quelqu'un entrer. « Vous cherchez quelque chose ? Dieu peut-être ?» Oui, c'est exactement cela qu'Olivier cherchait, mais ce n'était trop pour lui. Il s'excusa et fuit en toute hâte de ce lieu qu'il avait bouleversé. Toute ma vie m'est alors apparue comme dans un film. Ce supporter ensanglanté que je frappais, les mauvais coups, tout, je ne faisais que pleurer sur ce gâchis. C'est alors que, pour moi, en un instant, en cet instant, le ciel s'est ouvert. Je voulais commencer une nouvelle vie. Et c'est bien ce qui est arrivé avec l'aide de Dieu qui avait croisé sa route, qui avait répondu à sa prière. Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». David, revenons-en à David. David est entouré d'ennemis. Ça nous est dit aussi dans ce verset 13. Ils sont là, tout près. Ils sont nombreux, ils sont puissants. Ils en veulent à sa vie. David a le sentiment profond de n'être rien. Aussi peu de choses face à eux. Comment va-t-il s'en sortir ? Eh bien, ce sera cette soif des bonnes choses de Dieu qui sera pour lui le moyen de prendre courage et de continuer à marcher dans la voie du Seigneur et d'être ainsi délivré. Même si vous êtes entouré d'adversaires, d'ennemis de toutes sortes, même si tous les démons se déchaînaient, même si l'ennemi dans votre cœur était un redoutable géant, si vous avez soif de Dieu, de sa vérité, vous obtiendrez la délivrance tout entière. Un autre témoignage, celui du pasteur Gustafsson, qui avait un grand souci de fidélité à l'enseignement biblique et il pratiquait une vraie discipline dans l'Église, telle que l'enseigne le Nouveau Testament. Il lui est arrivé d'être contraint d'exclure des personnes qui vivaient dans le péché et ne manifestaient aucun désir de se repentir et d'abandonner leur mauvais chemin. L'exclusion était toujours la dernière solution quand tout avait été essayé pour ramener le pécheur dans la bonne voie. Et lorsqu'il était pasteur, Eskilstuna, deux hommes malveillants, remplis de mauvais sentiments à son égard, à cause de cette fermeté, lui intentèrent un procès, l'accusant de fausses déclarations fiscales. En outre, ils entamèrent une campagne de dénigrement dans la presse, où ils le comparaient à Hitler, à Mussolini et à Staline, affirmant qu'il se conduisait en véritable tyran dans l'Église. Ils avaient entendu un jour Georg Gustafsson dire qu'il ne payait pas ou très peu d'impôts. Comme il savait qu'il prêchait souvent dans d'autres églises et qu'il enseignait régulièrement dans plusieurs écoles bibliques, ils en avaient conclu qu'il gagnait beaucoup d'argent en plus de son salaire de pasteur et qu'il ne déclarait pas ses sommes. Il savait aussi qu'il établissait lui-même sa déclaration fiscale. Or, ce qu'ils ignoraient, c'est que ses revenus supplémentaires étaient très modestes et qu'il ne restait pratiquement rien une fois qu'il avait déduit les dépenses. Les deux hommes ne se contentaient pas de ces calomnies sur sa vie privée, mais l'accusaient aussi de mal gérer les finances de l'Église, insinuant que l'argent de l'offrande disparaissait. Leurs agissements finirent par créer un climat de suspicion dans l'Église, et le pasteur Gustafsson demanda au Seigneur de mettre un terme à leurs calomnies. Et un jour, durant un office, il eut une vision. C'était au moment de l'offrande, et il vit un des hommes y mettre une pièce de 2 centimes de couronne et l'autre une pièce d'1 centime. À la fin de l'office, il demanda à voir les deux hommes dans son bureau. Il fit entrer le premier en demandant à l'autre d'attendre. Regardant l'homme droit dans les yeux, il dit « J'ai entendu que tu m'accuses de mal gérer les finances de l'Assemblée. Je suppose que toi, qui as un tel souci pour ce domaine de l'œuvre, tu dois mettre une bonne somme dans l'offrande. » L'homme avalait péniblement sa salive et essayait de paraître imperturbable face au regard pénétrant du pasteur. « Dis-moi maintenant, poursuivit celui-ci, combien tu as mis dans l'offrande d'aujourd'hui ?»« Ça, bégaya l'homme, c'est un secret entre Dieu et moi. » « Eh bien, répondit Jörg, ce n'est pas vrai. Car si tu ne me le dis pas, moi je peux te le dire. Et alors tous te porteront dehors comme ils le firent pour Ananias. Reconnais maintenant devant le Seigneur que tu as mis 2 centimes. »« Oui, 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 souffla l'homme, avouant ce qu'il avait fait. » L'autre, qui avait attendu devant la porte et qui avait tout entendu, s'enfuit pour ne pas avoir avoué qu'il n'avait mis 1 centime. Quelque temps avant ces événements, l'épouse d'un des principaux inspecteurs d'impôts de la ville s'était convertie et était devenue membre de l'Église. Jörg fit la connaissance de son mari et un jour, quand l'occasion se présenta, demanda à l'inspecteur de l'aider à établir sa déclaration. Le jour où Jörg reçut la convocation au tribunal pour répondre des accusations de fausses déclarations, il eut la surprise de se retrouver devant cet inspecteur qui devait mener l'interrogatoire. Il y avait aussi présent à l'audience les deux hommes qu'il avait traduits en justice. L'inspecteur commença par demander à ces derniers les raisons de leurs accusations. « Oui, dirent-ils, le pasteur est intervenu dans plusieurs écoles bibliques, à Stockholm, à Göteborg, à Malmö, et là on paye bien, il a omis de déclarer ces revenus-là. » « Savez-vous qui a établi sa déclaration ?»« Oui, il le fait toujours tout seul. » « C'est étrange, dit l'inspecteur. Cette fois-ci, c'est moi qui établis sa déclaration. » Et je peux vous assurer que le pasteur a tout déclaré. Mais vous, messieurs, poursuivit-il, qu'en est-il de vos propres déclarations d'impôts? J'ai des renseignements ici qui me montrent que vous avez tous les deux produit de fausses déclarations. Devant les preuves irréfutables qu'il présenta, ils ne purent nier et furent condamnés à de fortes amendes. Lorsque le pasteur Gustafsson relata ces faits à l'Église, les deux hommes furent exclus. Le serviteur de Dieu avait usé de patience, de support, de miséricorde et de Seigneur plus encore. Mais à un moment, la patience de Dieu atteint ses limites et ceux qui résistent à Dieu avec mauvaise foi et deviennent des obstacles à l'avancement du royaume de Dieu, eh bien ceux-là furent extirpés en peu de temps. Vous savez, le Seigneur est tout-puissant pour délivrer ceux qui le servent et veulent faire sa volonté. Et puis si je vois une troisième chose concernant David, c'est qu'il n'a pas accès à l'eau de la citerne. Présentement, il ne peut pas sortir de la caverne. Il faut que quelqu'un d'autre y aille pour lui chercher cette eau, car à cause de ses ennemis, il ne peut y aller lui-même. Et beaucoup de gens sont ainsi. Ils sont entourés d'ennemis qui les maintiennent dans l'obscurité, dans le fond de leur caverne. Ces ennemis peuvent avoir pour nom raillerie, méchanceté, orgueil, mauvaise passion, timidité, débauche, incrédulité, que sais-je. Et il faut que d'autres aillent leur chercher l'eau de la vie, l'eau de la parole, pour qu'ils puissent y goûter. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il puisse y avoir des témoins du Seigneur, des prédicateurs, des frères et sœurs dans la foi. Et puis une chose encore qu'on voit, c'est que David a le désir de boire de cette eau-là, précisément. Alors, il existe différentes eaux. Il en est qui sont polluées, il en est qui sont boueuses, il en est qui sont troubles, il en est qui sont amères, il en est qui sont tièdes, qui sont calcaires. Mais là, il est question de l'eau de la vie. Il est question de l'eau de la grâce. Il est question de l'eau pure et vivifiante d'en haut. combien il est précieux d'avoir ce désir et cette soif. Et ce que nous voyons encore, c'est que non seulement il le désire, mais il exprime son désir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous parle. Nous avons besoin de faire monter notre voix devant Dieu. L'importance de la prière est centrale et nous est continuellement rappelée dans l'Écriture sainte. Il est important de demander pour recevoir. C'est l'importance d'une prière et d'un désir fervent. Dans Jérémie chapitre 3, nous lisons verset 55, « J'ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de ma citerne, et tu m'as entendu. » Invoquer le nom du Seigneur signifie crier, appeler à haute voix, s'adresser à quelqu'un, dans ce cas, en utilisant son nom, dans ce cas, c'est le Seigneur. Et à ce moment-là, Jérémie venait d'être jeté au fond d'une citerne, dont le sol était couvert d'une épaisse couche de boue dans laquelle il s'enfonça. Imaginez son anxiété à l'idée de mourir ainsi. Aussi osa-t-il interpeller Dieu en criant de toute sa voix. Il nous est dit qu'Enoch, le premier fils d'Adam et d'Ève, fut le premier homme qui invoqua le nom du Seigneur. Et depuis, bien des milliers de croyants ont osé crier à Dieu. Je dirais que cette particularité devint même une marque de fabrique des chrétiens du Nouveau Testament. Lorsque Paul adresse sa première épître aux Corinthiens, il dit « À ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. » Un homme de Dieu disait « Quel dommage que tant de chrétiens aujourd'hui n'osent pas s'adresser ainsi à Dieu. » Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Seigneur veut raviver cet aspect de notre relation avec lui, afin que nous plus apprécions davantage les bienfaits d'une vie abondante dans sa présence. Mais pourquoi invoquer son nom au lieu de simplement prier? Parce que nous devons invoquer le nom du Seigneur déjà avec sincérité et repentance pour être sauvés. C'est ce qui nous est rappelé dans Romains chapitre 10, verset 13. Et puis s'adresser à lui à haute voix nous libère de nos réticences, de nos doutes, de notre timidité, nous aide à exprimer notre profession de foi. C'est vrai que le salut n'est pas lié à un simple appel à haute voix en direction du Seigneur, puisque Jésus a dit « Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mais malgré tout, invoquer le nom de Jésus est une preuve d'obéissance à la volonté divine. Et puis aussi, nous avons bien des passages qui nous rappellent cela. Le psaume 18, verset 6, nous dit que ceux qui l'invoquent, c'est pour être délivrés de toute détresse. Le psaume 50, verset 15, être délivré de toute épreuve. Le psaume 116, verset 3 et 4, être délivré de toute peine ou douleur. Et c'est vrai que bien souvent, on s'aperçoit que des croyants qui n'osaient peut-être pas invoquer le nom du Seigneur quand tout allait bien dans leur vie, ont changé d'opinion dès qu'ils ont dû faire face à des difficultés insurmontables. Alors n'attendez pas de vous retrouver au fond d'une citerne ou au fond d'une caverne pour l'invoquer. Et si je reviens à David, je vois combien il considère le prix et la valeur de cette eau-là. Voyez comme il en fait une offrande à l'Éternel. Il lui offre, rappelez-vous que David n'offrait, vous ne voulez jamais offrir quelque chose qui ne lui coûtait rien. Donc ça veut dire qu'il lui offrait quelque chose qui était extrêmement précieux. Ça l'a beaucoup touché. Et cet acte de piété, c'est aussi quelque chose qui mènera à la bénédiction. Et puis David considère la valeur de l'acte accompli par ses hommes. Il est reconnaissant pour cela. Et sa reconnaissance ne va pas se limiter au moment où cela s'est produit. Il restera reconnaissant. Cette reconnaissance durera toujours. Il en sera aussi reconnaissant à Dieu. Vous savez, la reconnaissance, c'est la preuve d'une réelle vie avec Dieu. Quelqu'un qui vit avec le Seigneur ne peut pas faire autrement que d'être reconnaissant, que ce soit à l'égard de son Dieu ou à l'égard de ceux qui ont pu lui faire du bien. Et puis j'en arrive maintenant à mon deuxième grand point, ce sont ces trois vaillants hommes. Ces trois vaillants hommes qui sont une image de ceux qui servent Dieu fidèlement. Il est marqué qu'ils sont sortis au temps de la moisson, et ceci nous rappelle que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, et donc les voilà qui vont obéir à l'ordre, et nous aussi, eh bien, le temps est arrivé de travailler dans la moisson du Seigneur. Et même si nous sommes en période de confinement, eh bien, nous avons des possibilités de le faire, et Dieu va nous ouvrir de nouvelles portes, certainement aussi, si nous avons un cœur de bien nous disposer pour cela. Il est marqué qu'ils sont descendus auprès de David, au verset 13. Et oui, David était au fond de cette caverne. Il est nécessaire de s'abaisser. S'abaisser comme Jésus qui a quitté la gloire du ciel. Et nous n'en quitterons jamais autant. Nous savons que David est dans la difficulté et le danger. Mais ils y sont allés tout de même, prouvant leur courage et leur engagement. C'est l'image de ceux qui servent Dieu. Et puis, ils ont montré aussi leur amour pour David. Ça aussi, au verset 15 et 16, on le voit. Il a eu un désir, simplement. Et ils ont voulu exaucer son désir. D'ailleurs, il n'est même pas sûr qu'il ait exprimé ce désir d'une façon extrêmement forte. Hein ? Mais eux étaient aux aguets. Aux aguets pour faire ce qui lui était agréable, pour faire ce qui pouvait lui faire plaisir. Et ce désir était évidemment aussi spirituel en même temps. Et c'est pour cela que le Seigneur entend et exauce ceux qui gardent ses commandements et qui ont à cœur aussi de faire ce qui lui est agréable. Nous voyons que c'est au péril de leur vie qu'ils ont fait cela. Et oui, c'était une entreprise extrêmement dangereuse que de prétendre traverser ce camp des Philistins. Et ça, c'est un exemple aussi, un exemple de bien d'autres après qui sont venus, qui ont gardé, propagé, transmis l'eau de la vie, la parole de Dieu, au péril de leur existence et parfois au sacrifice de leur existence. Hein, cette longue chaîne de témoins qui nous permet d'avoir l'évangile aujourd'hui. Et je me rappelais de ce témoignage lorsque l'empereur Licinius persécutait les chrétiens d'Arménie, c'était au 3e siècle, je crois, au 4e, 3e, je pense. Et là, 40 soldats de la légion chargée de sévir contre les Arméniens se déclarèrent eux aussi chrétiens. Et le commandant de la légion les condamna alors à rester dévêtus au milieu d'un lac gelé. Et sur la rive, les autres soldats se réchauffaient autour d'un grand feu et invitaient les légionnaires chrétiens à renier leur foi et à les rejoindre sans délai. Et ils observaient, la plupart en riant, ces hommes qui chantaient des cantiques, en attendant que le vent et le froid fassent leur œuvre et les réduisent au silence. Et au bout d'un certain temps, un homme, titubant, se détacha du groupe. N'en pouvant plus, il s'approcha du feu pour sauver sa vie. Et alors, le centurion qui surveillait le supplice enleva son uniforme et s'engagea sur le lac gelé pour prendre la place de celui qui était défaillant. En observant la paix et le rayonnement de ces hommes, le centurion réalisa qu'il y avait là une force et une réalité qui ne pouvait être que d'origine divine. En proclamant à son tour sa foi en Jésus, le Fils de Dieu, il savait qu'il se condamnait lui-même, mais il n'a pas voulu différer son engagement et renier la découverte qu'il venait de faire. Et cet exemple des temps passés de nous amener à réfléchir. Parce qu'en effet, c'est grâce au courage de ces hommes, de ces femmes, car elles furent nombreuses dans l'histoire à faire ce même choix. C'est grâce à eux et à elles que le message du pardon des péchés, par la repentance et la foi en Christ, nous est parvenu. Beaucoup hésitent à prendre ce message au sérieux, de crainte de quelques moqueries ou quelques dérangements dans leurs habitudes. D'autres se proclament chrétiens, mais oublient cette affirmation dès que leur intérêt est en jeu. Ils n'hésitent plus alors à tricher ou mentir. L'évangile est un absolu, dont les exigences ne peuvent pas varier en fonction de nos intérêts. C'est la bonne nouvelle du salut éternel que Dieu propose à tous les hommes en Jésus-Christ, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Et puis, cette eau qu'ils ont apportée, ils l'ont présentée à David. Et ça aussi, ça nous parle. Ça aussi, ça nous parle. Il est important d'apporter l'eau de la parole de Dieu à ceux qui ont soif. de la présenter de la bonne façon. Il est nécessaire que nous puissions pour cela être des vases qui sont purifiés et qui sont sanctifiés. Là encore, bien des choses seraient à dire, mais rappelons encore que ces hommes sont des chefs. Il nous est dit qu'ils sont des chefs. Comment sont-ils devenus chefs? Comment est-ce qu'on devient chef dans l'œuvre de Dieu? Là encore, par des actes d'amour, par des actes de service en faveur de ceux qui ont soif. Seigneur Jésus, avant de partir pour la crucifixion, a dit à ses disciples, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et c'est de cette manière qu'on reçoit cette autorité spirituelle dans le nom de Jésus qui va nous permettre aussi d'être des chefs qui sont selon Dieu. Et puis je relève enfin une chose encore, une dernière chose à leur sujet, c'est qu'ils sont trois. Ils ont travaillé en équipe, ils ont travaillé en communion. Certains pourraient dire pourquoi sont-ils allés à trois, il aurait mieux vu y aller un seul, ça aurait été moins de risque d'éveiller l'attention des adversaires, mais nous voyons qu'ils ont eu raison d'agir ainsi. L'Écriture nous parle de compagnons, d'œuvres, de combats et de services en même temps. Elle nous rappelle que c'est cette union, cette communion qu'ils ont eue entre eux, qui a été un moyen de leur faire réaliser cet exploit. Et ceci nous rappelle combien la communion réelle et profonde, selon Dieu, est véritablement le moyen aussi de gagner bien des victoires. Enfin, considérons pour conclure notre troisième et dernier point, la triple façon dont Dieu les a approuvés. Il les a approuvés déjà, bien évidemment, par la manière dont il les a gardés surnaturellement dans ce grand péril. Ensuite, par l'acceptation du sacrifice qu'ils ont fait. Et puis, dirais-je, par la manière dont tout cela a été retenu, inscrit, relaté. Lorsque vous lisez à la fin de notre lecture, tout à fait à la fin du verset 17, il est marqué là, « Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. » La parole de Dieu, l'auteur de la parole de Dieu, l'auteur divin de la parole de Dieu, a voulu que cela vienne jusqu'à nous et que cette phrase d'insistance soit mise au terme de ce beau récit. Et ceci nous parle aussi du secours de Dieu, de la récompense que le Seigneur accorde et accordera, déjà ici-bas, mais dans la gloire, surtout, à ceux qui agissent ainsi. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nos cœurs. Te remercions, Seigneur, parce que tu es pour nous véritablement la citerne d'eau de la vie, Jésus, et merci parce que cette eau est meilleure que n'importe quelle autre qu'il puisse y avoir par ailleurs. Et merci parce qu'elle est abondante, parce qu'elle est excellente, Seigneur. Et merci parce que tu es celui qui fortifie dans nos cœurs le désir, les aspirations après les choses d'en haut, après cette eau vivante, cette eau céleste. Parce que si tu fortifies ce désir en nous, c'est que tu veux aussi le combler et c'est que tu veux nous remplir de cette vie véritable. Béni sois-tu, Jésus, pour tous ces bien-aimés qui maintenant encore ont ce désir de se tourner vers toi. Et Seigneur, nous voulons considérer aussi, et c'est vrai, à la fois la bonne disposition de David qui nous montre celle que nous devons avoir et aussi l'exemple de ces hommes qui ont été de bons serviteurs, qui ont été des moyens d'apporter cette eau de la vie là où elle devait être portée, là où se trouvait celui qui a soif. Et merci parce que tu agis aussi dans nos cœurs pour qu'il puisse être ainsi pour nous. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, eh bien, je me permets de vous rappeler le WhatsApp de dimanche matin avec donc les sujets de louange et d'action de grâce principaux que nous pouvons avoir à cœur les uns et les autres. Ce même jour, eh bien, il y aura aussi la prédication de la parole de Dieu sur le site de l'Église. Et je me permets de vous rappeler encore la reprise de la réunion de prière à l'Église mercredi prochain, donc le 17 à 20h15. Que le Seigneur bénisse, fortifie chacun par sa grâce, par sa puissance, qu'il nous garde dans sa paix et aussi dans un esprit de prière et de foi. Amen.